que la parole de Dieu va nous changer et transformer. Il y a une déclaration de la foi qu'on aime faire ici à la vie comblée. Et qu'est-ce qu'on aime faire? C'est prendre notre Bible dans nos mains. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Sinon, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte. Si vous n'avez pas reçu la feuille, levez la main et un placé va vous donner une feuille. Il y a une personne ici, Claude, qui a besoin d'une feuille, une madame ici. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'une feuille avec les notes ce matin? Juste levez la main bien haut, comme il faut. Et c'est bien. Merci Seigneur. Donc on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, nous sommes déjà pas mal avancés dans notre campagne 40 jours en ce but, où on parle des 5 objectifs que Dieu a établis pour notre vie. On sait qu'il y a plus que 5 objectifs, mais voici 5 objectifs primordiaux que Dieu a établis pour nous, et que si nous allons être heureux dans la vie, si on veut avoir du succès dans la vie, il faut comprendre ces objectifs, et pas juste les comprendre, mais les mettre en pratique à tous les jours, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu que le premier objectif de notre vie, c'est l'adoration, parce que vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. On a parlé de cela. Puis, la semaine passée, on a parlé de la communion, le fait que vous avez été façonné pour la famille de Dieu. Mais aujourd'hui, on va continuer. Il y a un autre objectif que Dieu a établi pour nos vies, et c'est que nous avons été créés pour devenir comme Christ. Et déjà, c'est un concept assez intéressant, n'est-ce pas? Que nous, les êtres humains, nous pouvons devenir comme Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que Jésus-Christ est parfait? Hein, à 100%, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il pense est parfait. Tout ce qu'il dit est parfait. Jésus-Christ est vraiment le modèle de la perfection. Et ici, on voit que nous avons été créés pour devenir comme lui. N'est-ce pas intéressant? Mais une chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait la même observation, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas des êtres humains, à part Jésus-Christ, qui sont déjà rendus à la perfection. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà parfait? Non? Hein? Donc, désolé, hein, mais il n'y a personne, même si vous avez pensé que vous êtes là, je ne veux pas vous décevoir, mais vous n'êtes pas là. Personne n'est parfait. On est tous en route. On est en train de devenir comme Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on veut découvrir? C'est qu'il y a un équilibre entre cette attitude qui dit que, oh ben, personne n'est parfait. Hein? On est juste des êtres humains. On a même des fois vu des autocollants sur les bumpers des autos qui disent « Les chrétiens ne sont pas parfaits, juste pardonnés. » etc. Et ça, c'est un extrême, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a aucune différence entre un chrétien, quelqu'un qui croit en Jésus, et celui qui ne croit pas. La seule différence, c'est notre foi. Mais ça, c'est pas vrai non plus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre destinée, c'est d'être conforme à l'image de Jésus-Christ. Nous avons vraiment été créés pour devenir comme Jésus-Christ. Et on sait qu'on ne serait jamais arrivé à la perfection totale, esprit, âme et corps, avant que Jésus revienne ou avant qu'on soit rendu au ciel avec lui. Vous êtes d'accord avec cela, oui? Mais entre la réalité d'aujourd'hui et la réalité de l'éternité, il y a qu'est-ce qu'on appelle un cheminement, on pourrait dire. Il y a un processus de croissance où on est en train d'être conforme à son image, on est en train de grandir et devenir comme Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est ça dont nous sommes en train de parler aujourd'hui et que nous allons étudier aujourd'hui. En fait, il y a un verset en 2 Corinthiens chapitre 3, dans vos notes, verset 17, qui dit ceci. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là et la liberté. N'est-ce pas merveilleux que Jésus n'est pas venu pour nous rendre esclaves, il n'est pas venu pour nous lier, il est venu pour nous libérer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'idées sur Dieu et beaucoup de personnes religieuses, mais qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que la religion met les gens en esclavage, mais la vérité nous a affranchis. Amen? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. On va le dire ensemble, nous sommes transformés. Vous savez, c'est ça la clé. Nous sommes destinés à être transformés. Quand on revient à Jésus-Christ, on n'est pas supposé de rester comme on était, on est supposé de changer. Et le changement, quand on est en train de changer pour devenir comme Christ, c'est une chose très positive. Nous sommes transformés comment? En la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, je veux vraiment que vous voyez la volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse contempler la gloire de Jésus-Christ. Pour qu'on puisse voir Jésus pour qui il est. On peut voir les caractéristiques de Jésus, la nature de Jésus. Et plus on est en train de contempler sa gloire, plus nous sommes en train d'être transformés dans la même image. Pour que quand les gens nous regardent, ils vont pas voir qu'est-ce que nous étions avant, mais ils vont commencer à voir qu'il y a une différence. Ils vont dire que, hey, on a chanté, te ressembler, Jésus, c'est mon désir, n'est-ce pas? Combien de vous, vous voulez que quand vos voisins, quand vos collègues au travail vous voient, quand ils parlent de vous, ils pensent à Jésus? Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. On est supposé d'être le corps de Jésus-Christ, de démontrer au monde que nous sommes différents, que Jésus habite en nous. Et il y a plusieurs choses dans vos notes que je veux dire juste pour commencer ce matin, et plusieurs vérités que je veux souligner. Premièrement, dans vos notes, on va dire que mon troisième objectif dans la vie, c'est le discipulat. Et ça, c'est un mot qui a été inventé en réalité, ça se trouve pas encore dans le dictionnaire. Mais discipulat, mais ça veut dire, c'est, en réalité, c'est le processus de devenir un disciple ou le processus par lequel je deviens comme Christ. Le discipulat, c'est la croissance spirituelle. C'est le cheminement qui mène à la maturité en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle que une fois qu'on est né de nouveau en Jésus, une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on peut grandir en lui? Hein? Quand vous êtes venu au monde, moi, je pense que je pesais 6 livres quelque chose. Je suis content que j'ai grandi. Et vous? Ça serait pas mal drôle de... Je serais même pas capable de me voir en arrière de l'utrin ce matin, si j'étais là, hein, à 6 livres, en train de prêcher. Mais gloire à Dieu, j'ai grandi. Et je pèse un peu plus que 6 livres maintenant. Mais vous savez que dans le Seigneur, spirituellement, c'est la même chose. Quand on vient à Jésus, on est né de nouveau, mais on vient dans le monde spirituel, on pourrait dire. On est né comme des bébés en Jésus-Christ, comme des enfants nouveau-nés. Et ces enfants ont besoin de grandir. Et c'est une croissance qui n'est pas forcément visible à l'extérieur. Parce que quand je viens à Jésus, mon corps physique ne change pas. Hein? Mon esprit est changé. Et c'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé chrétien à l'intérieur d'un corps qui a 90 ans ou 100 ans. Et on peut avoir un chrétien mature, adulte, dans le corps d'un jeune homme de 16 ans. Vous comprenez? La croissance spirituelle n'est pas déterminée par l'âge chronologique. Et je connais beaucoup de personnes que, après avoir connu le Seigneur, seulement 5 ans sont beaucoup plus matures que quelques autres personnes qui se disent être chrétiennes depuis 50 ans. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle, le développement spirituel, c'est pas automatique. C'est pas une chose comme, le processus de devenir de veiller, est-ce que vous savez que ça c'est automatique? Moi, je n'ai pas prononcé, c'est à veillir, pardon. Oh, mais oublie ça, hein? Je vais même pas essayer, hein? Tout simplement, bref, vous allez devenir de plus en plus vieux si vous voulez ou même si vous ne voulez pas. On peut dire si on veut, bon, mais je vais arrêter à 35 ans ou à 39 ans ou à 40 ans. À partir de là, je ne vais plus avoir des anniversaires. Je vais rester à 40 ans ou 25 ans. Ça ne marche pas, hein? Veux, veux pas, vous allez continuer à devenir vieux. Et votre homme extérieur, la Bible dit, va détériorer. Mais votre homme intérieur se renouvelle à chaque jour, la parole de Dieu dit. Mais là, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'une personne qui vient au Seigneur et qui ne prend pas les pas nécessaires pour grandir spirituellement, lui va rester bébé. Et il peut rester bébé longtemps. Et on a beaucoup de bébés là-là dans les églises. C'est vrai, hein? Ça serait drôle d'aller dans la pouponnière ce matin et voir un homme de 35 ans avec un biberon dans la bouche, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a personne qui va se présenter à la pouponnière. Est-ce que tu peux changer ma couche? Non, ça c'est à toi de le faire. Hein? C'est à toi de chercher ton lait. C'est à toi de boire. Mais utilise pas le biberon. Hein? On a besoin de vider la pouponnière spirituelle et donner place au véritable nouveau-né, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on parle de ce disciple-là aujourd'hui. On voit une autre chose dans vos notes, c'est que nous sommes destinés à devenir conformes à l'image de Christ. Ça, c'est notre destinée. Vous voulez savoir c'est quoi votre destinée dans la vie? Il y a toutes sortes de choses que Dieu veut peut-être pour vos vies. Il y a des plans spécifiques et les choses qui sont différentes pour chaque individu dans le corps de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, ou ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être homme d'affaires, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être femme au foyer, mais laisse-moi vous dire que nous sommes tous appelés à quelque chose. Mais quand on parle de ce processus de devenir un disciple et de grandir en Jésus, ça c'est quelque chose qui appartient à chaque chrétien. Et nous sommes tous prédestinés même à être conformes à l'image de Jésus-Christ. À la fin de votre vie chrétienne, vous devriez ressembler à Jésus. C'est-à-dire que vous devriez penser comme Jésus, parler comme Jésus et agir comme Jésus. Amen? En fait, il y a quelque chose qui dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et qu'est-ce qu'on voit? La deuxième chose dans vos notes, c'est que l'image de Christ, cette image de Jésus, sa nature, son caractère, se trouve déjà à l'intérieur de votre esprit. L'image de Christ est déjà dans mon esprit, si vous êtes né de nouveau. La Bible est claire que si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous avez une nature pécheresse. Et la nature du diable est dans ton cœur. Veux, veux pas, la Bible dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Même la meilleure personne du monde est quand même pécheur s'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il faut recevoir Jésus, c'est un don gratuit, la vie éternelle. Il faut confesser avec la bouche et croire dans le cœur. Et là, tu peux passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Tu peux naître de nouveau, comme Jésus a dit. Mais quand tu es né de nouveau en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit Saint entre dans ton esprit. La nature divine, en fait, Pierre l'a dit comme ceci. Il a dit que nous pouvons être les participants de la nature divine. Tout le monde dit, je suis participant de la nature divine. Et si vous avez reçu Jésus, qu'est-ce que vous venez de dire? C'est vrai. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre maître personnel, c'est pas encore vrai, mais ça peut être vrai avant que vous quittiez aujourd'hui. Mais c'est ça le merveille de savoir que quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, que quelque chose se passe en moi. Je suis changé. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, hein? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça se passe ici dans mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que l'image de Jésus-Christ est transmise à mon esprit automatiquement et instantanément quand je confesse Jésus. On va lire un couple de versets qui vont nous aider à comprendre cela. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses œuvres et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cette nouvelle création dans votre esprit est créée dans l'image de Dieu. C'est-à-dire que si on pourrait, avec des lunettes spéciales, voir à l'intérieur de votre cœur, on verrait la nature de Jésus-Christ dans votre esprit. Amen. Mais maintenant, le truc, c'est de faire en sorte que la nature de Dieu qui est dans mon cœur puisse se manifester et devenir visible par mes actions, par mes gestes, par mes paroles, n'est-ce pas? Il faut que ça devienne évident. Il faut que je fasse quelque chose pour que ça grandisse. On va vous parler de cela dans une minute. 2 Corinthiens 4, 5 et 7 dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Où est-ce que Dieu a fait briller la lumière? Dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quoi une vase de terre? C'est un corps physique. C'est de terre parce que quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre, n'est-ce pas? Et il a formé l'homme et ensuite il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et on voit que nous portons ce trésor. C'est quoi le trésor? La lumière de Dieu, la nature divine, l'image de Jésus-Christ. Nous le portons dans une vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc c'est intéressant que Dieu dit que c'est une image de Jésus que nous avons à l'intérieur de nous. Et ceux qui ont déjà utilisé les appareils photo, vous savez comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Maintenant, c'est un peu différent avec les caméras numériques, mais dans le vieux bon temps, quand on utilisait du film, on avait besoin de mettre du film dans une caméra. Et si on pense à ça, la réalité, c'est qu'il fallait que ça soit noir à l'intérieur de l'appareil, n'est-ce pas? C'est complètement noir, il n'y a pas de lumière qui entre. Sauf quand on pèse sur le bouton, il y a une petite ouverture, tout petit, et qu'est-ce qui se passe? La lumière entre. La lumière frappe le film, n'est-ce pas? Et dès que la lumière frappe le film, il y a une image qui est brûlée sur le film, n'est-ce pas? Dieu qui a dit, la lumière va briller dans les ténèbres. C'était où le lieu ténébreux? Dans notre cœur. Notre cœur était dans les ténèbres parce qu'on était séparés d'avec Dieu. Mais quand on a pesé sur le bouton de la foi, quand on a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je confesse que Jésus est mon Seigneur, je veux vivre pour lui, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Dès qu'on a dit cela et cru cela, boum, la lumière de Dieu est entrée dans un clin d'œil et la lumière de Dieu a frappé notre esprit et l'image de Jésus-Christ fut brûlée sur notre cœur. Amen? Mais est-ce que vous avez remarqué, dans les anciens temps, avec ces vieux appareils, que même si vous aviez pris 24 prises, ou peut-être 36 sur le rouleau, que aussi longtemps que ça reste dans l'appareil, on ne voit pas cette image. Et beaucoup de chrétiens sont comme ces caméras fermées. L'image de Jésus est en vous, mais il y a juste un problème, personne ne peut le voir. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour voir cette image? Il faut ouvrir la caméra, il faut donner ouverture, mais aussi il faut développer le film, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà fait cela avec mon grand frère dans le passé. Il était photographe et il avait une chambre noire. Est-ce que vous avez déjà fait cela? Et on va dans la chambre noire et on sort le film du caméra et on voit absolument rien sur le film. C'est comme rien! Sauf que quand on prend ce film et on le trempe dans un produit chimique qui s'appelle un révélateur, n'est-ce pas? Quand on met ça dans le révélateur, tout d'un coup, l'image qui était déjà là commence à apparaître. Et là, on peut faire passer le film sous une lampe, comme qui peut représenter même la parole de Dieu. Et quand cette lampe, la lumière passe par-dessus ces films, ça va brûler l'image sur un morceau de papier photographique, et là, l'image, encore une fois, dans le révélateur, fait en sorte que l'image est maintenant visible. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que le discipulat, c'est beaucoup comme ça. Vous avez déjà été né de nouveau, l'image de Jésus est déjà dans votre cœur, mais vous avez besoin de vous tremper dans le révélateur. C'est qui? C'est l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Et plus vous êtes dans la présence de l'Esprit Saint, plus ce que Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait dans votre cœur va devenir évident. Vous allez commencer à voir cela. Amen. Plus vous êtes dans la parole de Dieu, qui est comme la lampe, qui va faire en sorte que le film est transmis, l'image du film est transmise sur le papier photographique. Cette lampe va faire en sorte que la lampe de la parole de Dieu va renouveler votre intelligence. Et ce qui est dans votre esprit, qui représente le film, hein, avec la lampe de la parole de Dieu, ça va projeter cette image dans vos pensées et votre intelligence va être renouvelée. Vous allez penser comme Dieu pense. Et vous serez transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Vous savez, c'est un processus assez merveilleux, n'est-ce pas? Qu'on peut devenir conforme à l'image de Jésus. Regardons bien, il y a un autre verset qui est là. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, ou né de nouveau, la lumière a brillé dans votre cœur. » Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, on a une autre image. On a eu l'image du film, mais ici, on a une image d'une semence. La Bible dit que quand nous avons été nés de nouveau, quand la lumière est entrée dans notre cœur, c'était comme une semence qui fut plantée dans notre esprit. Et c'est quoi la semence? Ou on pourrait dire plutôt, c'est qui la semence? C'est Jésus-Christ qui est la parole vivante. C'est Jésus qui est la parole, la semence qui fut plantée dans votre cœur. Dès que vous avez confessé Jésus, la semence de Christ fut plantée dans votre cœur. Mais est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait un peu de jardinage ou qui ont planté une semence? Hein? Tu peux acheter un paquet de semences et tu vas voir sur le paquet une image des haricots, des carottes ou quelque chose, des tomates. Tu prends la semence, tu vas mettre ça dans la terre, et est-ce que tu vois tout de suite les tomates? Est-ce que tu vois le fruit? Non! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette semence soit arrosée, et il faut que le fruit soit développé, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Laisse-moi vous dire, qu'est-ce qui est merveilleux? On peut prendre l'exemple d'un oranger. On prend une semence dans une orange, et c'est tout petit, n'est-ce pas? On ne voit pas grand-chose, mais dans la semence se trouvent toutes les caractéristiques d'un oranger, n'est-ce pas? Hein? Le tronc de l'arbre, les branches, les feuilles, les fleurs, tout ce qui concerne un oranger et les oranges se trouvent, toutes ces caractéristiques, sans exception, se trouvent dans la semence, mais on ne voit rien. Il faut que la semence soit plantée, mais aussi, il faut que ça soit développé. Savez-vous que c'est la même chose pour vous, dans le Seigneur Jésus? Quand Jésus est entré dans votre cœur, il est là, et toutes les caractéristiques de Dieu, tout son amour, toute la patience, toute la bonté, toute la fidélité, tous les fruits de l'Esprit se trouvent à l'intérieur de votre cœur, sous forme de semence. Et maintenant, c'est à vous d'arroser la semence, laisser pousser la semence, afin que le fruit de l'Esprit, le caractère de Dieu, soit visible pour tout le monde, n'est-ce pas? Merveilleux. Donc, c'est ça qu'on fait, et c'est ça vraiment le but de la leçon aujourd'hui. On parle de discipulat, on parle de l'importance de développer l'image de Dieu. Et la troisième chose d'Avona, c'est que l'image de Christ doit grandir en moi. C'est pas assez juste de dire, je suis né de nouveau, Jésus est en moi, il faut que Jésus soit visible, il faut que vos voisins, il faut que vos collègues voient que Jésus est vivant dans votre vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Pierre 3:18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » 1 Pierre 2:2 dit alors, « Nous ne serons plus des enfants. » Pardon, Éphésiens 4. nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recurrent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons dans tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe, souligne ce mot, se développe par l'amour. Vous savez, Dieu veut qu'on développe l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit, la nature de Dieu, le caractère de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est le processus qu'on appelle le discipulat. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour finir aujourd'hui? Si vous voulez regarder la deuxième page de vos notes, on veut regarder quatre étapes que Jésus nous a démontrées pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. On peut dire dans un sens que ce sont les étapes qui sont nécessaires pour développer le film ou pour faire pousser la semence. Quatre choses que Jésus a dit à propos de ceux et celles qui veulent être les véritables disciples. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être des vrais disciples de Jésus ce matin? Alléluia. Donc, quatre choses à faire. Numéro un, première chose, c'est qu'il faut développer un temps quotidien dans la parole. Vous savez que si vous voulez grandir, si vous voulez devenir un véritable disciple de Jésus, il faut que vous preniez du temps dans la parole vivante de Dieu. Le verset qui est là, Jean 8, 31 et 32, dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Pensons à cela. Est-ce que le contraire est vrai? Que si nous ne demeurons pas dans sa parole, que nous ne sommes pas vraiment ses disciples? Il a dit, si, c'est conditionnel, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, combien il est important, la Bible dit en fait, Jésus a dit, que la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. On ne peut pas vivre sans manger. Votre corps physique va mourir si vous laissez trop de journées passer sans manger. Vous êtes d'accord? Il faut manger pour vivre. Il faut pas vivre pour manger, par exemple. Ça, c'est notre histoire. Mais il faut manger pour vivre. Et spirituellement, c'est la même chose. C'est pourquoi moi, j'ai établi, il y a longtemps, un petit règlement juste pour moi-même. Et vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais juste pour m'aider. Moi, j'ai comme une habitude que j'ai développée que si j'ai pas mangé la parole, spirituellement, je ne mange pas physiquement le matin. Hein? Pas de parole, pas de déjeuner. Et laisse-moi vous dire, un couple de fois, surtout au début, que c'est comme, bon, mon cœur disait, ah, j'ai vraiment faim, je vais juste manger d'abord et puis je vais faire la lecture de la Bible. Mais pour moi, je disais, non, je vais donner la première place à la parole, au nom de Jésus. Je vais prendre quelque temps, je vais lire la parole de Dieu, et je vais laisser la parole de Dieu nourrir mon esprit. Amen. C'est pas, hein? Le corps physique, on sait que la plupart d'entre vous allez donner à votre corps physique au moins deux, si pas trois repas chauds par jour, n'est-ce pas? Mais on se contente, beaucoup de chrétiennes, avec une collation froide une fois par semaine, n'est-ce pas? Mais bien entendu, j'espère que le message du dimanche matin, c'est pas une collation froide, mais... Hein? On aimerait croire que c'était un bon repas, un bon steak, mais quand même, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est pas assez. En fait, ma job en tant que pasteur, c'est pas de vous nourrir, forcément, mais c'est de vous amener au bon pâturage. Le berger amène les brebis au bon pâturage. Il dit, voici, il y a de l'herbe en masse ici. C'est vraiment délicieuse. Mangez! Ici, c'est une bonne place pour manger pendant la semaine. Et quand vous venez à l'église le dimanche matin, quand on parle d'un sujet quelconque, vous devrez prendre ça comme, wow, le pasteur vient de nous montrer un beau pâturage. Maintenant, c'est à moi pendant toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de manger ici et de nourrir mon esprit ici dans ce pâturage, n'est-ce pas? Mais si vous ne vivez que par les paroles que le pasteur vous prêche, vous allez crever de faim. Ou vous êtes vraiment, vraiment mal nourri, n'est-ce pas? Et faible. Imaginez qu'est-ce que vous aurez l'air si vous ne mangez qu'une seule fois par semaine. Ça ne prendrait pas longtemps, vous serez malade, n'est-ce pas? C'est la même chose. Prenez le temps à tous les jours, développez l'habitude. On a des plans de lecture de la Bible dans un an. Je vous conseille à faire cela. Même si vous n'êtes pas capable de faire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, au moins, faites une fois par jour un chapitre du Nouveau Testament. Prenez ça comme devoir. Il faut établir peut-être un objectif que cette année, je vais lire tout le Nouveau Testament. Et si ça c'est trop, au moins fais quelque chose. Il y a des une chose que je veux mentionner, il y a certaines personnes ici, vous n'aimez pas lire. Il y a des personnes qui détestent lire. On a une bonne nouvelle, on vit dans un âge de technologie où on a toutes sortes d'outils qui sont disponibles. Et je pense qu'on a même dans la librairie un format MP3, le Nouveau Testament, que vous pouvez écouter. Il y a des personnes qui vendent, les librairies chrétiennes qui vendent les cassettes audio du Nouveau Testament. Si vous n'aimez pas la lecture, achetez un set de cassettes ou des DVD ou des CD et écoutez au moins la parole de Dieu. Amen. Faites quelque chose pour que vous soyez nourris à tous les jours avec la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on a besoin de faire pour devenir comme Christ, c'est de développer un temps quotidien dans la prière. Jésus a dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, on parle de la prière, ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, imaginez qu'est-ce qui se passerait si chaque personne ici présente, pour le restant de leur vie, il prendrait un temps quotidiennement pour lire la parole de Dieu. Pensez-vous qu'on ferait un changement? Et pensez à l'impact qu'on pourrait faire si tout le monde ici prendrait le temps de prier à tous les jours. Quand je parle de la prière, je ne parle pas forcément de flécher les genoux et puis de prier en ton religieux, « Oh, Dieu éternel! » et de faire cela pendant une heure du temps. Mais la prière, c'est de la communication avec Dieu, n'est-ce pas? C'est parler avec Dieu. Et je crois que c'est une bonne chose de mettre à côté un temps dans le matin, par exemple, où on peut parler avec Dieu régulièrement. Mais vous savez, l'idéal, le best, c'est de développer la prière comme un style de vie. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière, c'est une forme de communion avec Dieu. Il y avait un homme qui était vraiment reconnu dans le 20e siècle, un homme d'Angleterre qui avait un ministère de puissance, Smith Wigglesworth, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un homme qui a vu des miracles. Autour de 30 personnes ressuscitées d'entre les morts sous son ministère. Et une fois, quelqu'un a posé la question, « Combien d'heures par jour est-ce que tu pries? Quand tu pries, combien de temps est-ce que tu prends pour prier? » Parce qu'il voyait la puissance dans sa vie. Il doit être un homme de prière. Mais lui, il a dit, « C'est rare que je vais prier plus que 30 minutes. » C'est presque jamais que je vais prier plus que 30 minutes. Mais il a dit, c'est très rare que je vais laisser passer 30 minutes sans prier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut, dans l'auto, parler à Dieu. On peut donner des actions de grâce. Seigneur, merci pour cette belle journée. Oh, il fait beau aujourd'hui. Merci, Seigneur. Et quand la pluie tombe, merci, Seigneur, que nous avons la pluie. Ça m'a fait pousser les pelouses, les tomates, c'est ça. Mais vois-tu, on devrait avoir cette communion avec Dieu. Mais combien de fois on passe des jours et des jours et des semaines sans parler à Dieu? C'est impoli, n'est-ce pas? Imaginez, j'ai entendu quelqu'un donner cet exemple, mais imaginez-vous qui êtes mariés. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés ici, vous aimez, d'habitude, c'est normal que si deux personnes vivent sous le même toit, ils sont mariés, ils vont parler entre eux, n'est-ce pas? Mais imaginez si pour une raison quelconque, le mari décide que je ne veux pas parler avec mon épouse aujourd'hui. Donc, il arrive à la table, puis il lit son journal, il ne dit pas un mot. Elle arrive, « Salut, comment ça va? » Il ne dit pas un mot. Et il fait ça. Ben, peut-être qu'elle va penser, mais il a eu une mauvaise journée, ça va mal, je vais juste le laisser tranquille, ou je ne sais pas trop. Mais le lendemain, elle arrive et il est là à la table avec son journal le matin, il ne dit pas un mot. Hein? Et ça continue 2, 3, 4, 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans ce couple? On ne veut même pas y penser, hein? Mais imaginez, hein? Madame essaie de parler à monsieur. Comment ça va, chérie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut jaser? Et c'est comme si sa femme est invisible. Elle n'est même pas là. Il est dans la lune. Mais savez-vous que nous sommes souvent comme ça avec le Seigneur? Le Seigneur est avec nous. Et souvent, il veut nous parler. Moi, je crois qu'il veut toujours nous parler. Mais souvent, c'est comme, « Hey, comment ça va aujourd'hui? Aimerais-tu me parler? » Mais, « Oh, mais j'ai déjà parlé à toi pendant 5 minutes au début de la journée, donc laisse-moi tranquille. » Hein? Imaginez ça, même un monsieur qui parlerait avec sa femme, « OK, chérie, assieds-toi. C'est le temps de parler. » Et puis quand la femme s'assoit, elle dit, « Et voici qu'est-ce que je veux. Pour dîner, j'aimerais avoir un steak. Pour mon lunch, n'oublie pas de mettre la tarte au sucre. » Et il passe le commande. Et puis il dit, « OK, bye, c'est le temps, je suis pressé. » Et pendant toute la journée, il ne dit pas un autre mot. Ça, c'est la vie de prière de beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? On passe notre commande. On dit à Dieu qu'est-ce qu'on veut. On parle à 500 000 $ et on dit, « Seigneur, bénis ma journée. Au revoir. » Mais Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Il veut qu'on parle avec lui. Il veut qu'on soit conscient qu'il est là 24 heures sur 24 heures. Et que la prière ne devrait pas être religieuse. On peut prier d'une façon amicale même avec le Seigneur, tout en ayant de révérence et de respect pour lui, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, développer un temps quotidien dans la prière, c'est quand même une bonne chose, je trouve, de mettre de côté un temps dans le matin. Mais pas juste le matin, tout au long de la journée, parler à votre Père. Amen. Troisième chose que Dieu veut qu'on fasse, et vous allez peut-être avoir des points d'interrogation quand je lis celui-là, mais c'est, on va voir que c'est vraiment un principe important pour grandir et pour devenir un vrai disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut mettre Dieu en premier par l'obéissance dans vos finances. Hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec le disciple-là? On va voir qu'est-ce que Jésus dit ici. De grandes foules, verset 25 de Luc 14, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, est-ce que Jésus est en train de dire qu'on devrait avoir la haine? Non. Il est en train de dire quelque chose d'une façon que personne ne va oublier. C'est-à-dire que comparé à notre amour pour Dieu, comparé à notre amour pour Jésus, parce que ailleurs, la parole est claire que Marie aimait vos femmes, n'est-ce pas? Mais Jésus est en train de parler des priorités dans ce passage. Qu'on devrait mettre Dieu en premier dans toutes nos relations, dans toute notre vie et tous les aspects de notre vie. Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier. » Verset 30, « En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Je veux vraiment souligner cette phrase. Encore, c'est pas moi qui l'a inventé, c'est Jésus, n'est-ce pas? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Pour être vraiment conforme à l'image de Jésus, il faut que Jésus soit numéro un dans notre vie. Il ne faut pas aimer l'argent plus qu'on aime Dieu. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas aimer notre épouse plus qu'on aime Dieu. Il ne faut pas aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit plus qu'on aime Dieu. Est-ce que cela veut dire que c'est pas bon d'avoir une épouse? Que c'est pas bon d'avoir des choses? C'est pas bon d'avoir d'argent? Non, c'est pas du tout qu'est-ce que Dieu est en train de dire. En fait, Jésus l'a dit, cherchez d'abord, premièrement, en premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, quelles choses? Les choses que les païens recherchent. Toutes les choses naturelles, même les choses monétaires, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, Dieu n'est pas en train de dire qu'il veut qu'on soit pauvre. Au contraire, c'est ma conviction. Et si vous avez suivi le cours Vie Victorieuse, quand on a parlé de la prospérité selon Dieu, vous savez que la Bible est claire que Dieu veut que son peuple soit béni pour bénir les autres, n'est-ce pas? Dieu veut bénir les hommes d'affaires. Il veut bénir les commerces chrétiens. Il veut que nous ayons de quoi satisfaire nos besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Mais pour arriver là, il faut avoir les priorités à la bonne place. Sinon, ça ne marche pas. Si l'ordre n'est pas correct, ça ne marche pas. Hein, comme je dis autrefois, j'avais des fusils à poudre noire. Vous savez c'est quoi, hein? Et pour que ça fonctionne, il fallait mettre du poudre dans le canon et ensuite on met la balle. Si on met la balle en premier et on met le poudre par-dessus, on peut tirer autant qu'on veut, mais ça ne marche pas. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on met l'argent avant Dieu, ça ne marche pas. Mais si on met Dieu avant l'argent, ça marche à la merveille. Amen. Donc encore, le problème, c'est que beaucoup des gens, ils ont peur quand on commence à parler de cela. Ils disent, oh, hein, enlève ta main de ma poche, là. Lâche ma portefeuille. Savez-vous quoi? C'est Dieu qui veut avoir sa main sur votre poche, dans votre poche et sur votre portefeuille. Dieu veut. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et plus on honore Dieu, c'est pourquoi on croit qu'il est important d'honorer le Seigneur avec les dîmes et les offrandes, parce qu'on met Dieu en premier. Et quand on met Dieu en premier, on se protège contre l'amour de l'argent. On cherche la bonne chose au bon moment. Et là, Dieu est capable de nous bénir. Et plus on donne à Dieu et plus on donne aux autres, plus le Seigneur peut nous bénir et plus nous sommes dans l'abondance. Amen? Mais ça fait partie quand même de notre processus de discipleship. La quatrième chose qui est tellement importante, c'est ceci, développer l'habitude de marcher dans l'amour. Développer l'habitude de marcher dans l'amour. Jésus a dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » N'est-ce pas intéressant? Les trois autres choses qu'on a vues, Jésus a dit qu'il faut que ça soit le cas si vous êtes vraiment mes disciples. Si vous voulez être un vrai disciple, il faut que ça, ça et ça soient en ordre. Il faut avoir un temps dans la parole. Il faut avoir un temps dans la prière. Il faut être obéissant dans les finances. Mais ici, il dit qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Moi, je crois que marcher dans l'amour, c'est la chose numéro un qui va convaincre les non-croyants que Jésus est vraiment vivant. Plus que toutes les autres choses. Même plus que votre temps de prière, plus que votre temps... Savez-vous quoi? Vous pouvez lire 20 chapitres de la Bible par jour. Passer 4 heures dans la journée à lire la Bible. Mais si vous n'avez pas l'amour pour vos frères, ça ne donne rien. Vous pouvez prier 24 heures sur 24 heures. Mais si vous êtes bête avec tout le monde et vous n'êtes pas en train de marcher dans l'amour, ça donne absolument rien. Si vous donnez 1 million par semaine pour les œuvres de Dieu et vous donnez tout ce que vous avez, même si vous prenez un vœu de pauvreté qui n'est pas biblique, pour dire que, oh, j'ai donné tout pour aider les autres, si vous n'avez pas l'amour, ça donne rien. C'est pourquoi l'amour, dans toutes ces choses, c'est la chose la plus importante. Aimez-vous. En fait, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas j'aime les autres n'importe comment, mais comme Jésus nous a aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Sans condition, n'est-ce pas? Jésus nous a aimés sans condition. Jésus nous a aimés complètement avec un grand sacrifice de sa vie, n'est-ce pas? Jésus nous a aimés sans fin aussi. Et Dieu veut qu'on l'aime de la même façon. Christ nous a pardonnés. C'est pourquoi Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il faut qu'on développe cet amour. Et la bonne nouvelle, n'oubliez pas, votre esprit s'est infirme, n'est-ce pas? L'image de Jésus est déjà brûlée sur votre esprit. La semence de Dieu est déjà plantée dans votre cœur. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques de Dieu sont en vous, dans votre esprit. Et c'est quoi la caractéristique numéro un? Pardon? C'est l'amour. Dieu est amour. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est déjà répandu dans votre cœur par l'Esprit Saint. Vous dites, mais moi, je ne suis pas capable d'aimer telle personne. Ah! J'aime les autres, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez de différent que les autres? Rien. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, n'est-ce pas? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça. Ça, c'est le véritable amour. Mais ça, c'est un amour surnaturel qu'on doit développer spirituellement. On devrait saisir la vie éternelle, l'amour de Dieu qui est dans notre cœur, la développer pour que ça devienne visible pour tout le monde qui nous entoure. Amen. Imaginez, si tout le monde ici ce matin prendrait un temps quotidien dans la parole de Dieu, à tous les jours, je nourris mon esprit avec la parole. À tous les jours, je reste en communion avec Dieu dans la prière. À tous les jours, j'honore Dieu avec mes finances. Je mets Dieu en premier. À tous les jours, je marche dans l'amour avec mes frères et mes soeurs. Je refuse de me laisser offenser. Savez-vous quoi? Le mot offense, j'ai juste à cœur de dire ceci. Le mot offense, dans la Bible, en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour un appât d'une piège. C'est-à-dire que quand on se laisse offenser, nous sommes en train de prendre l'appât de l'ennemi et on finit par être pris dans le piège. Hein? C'est comme on a entendu l'histoire des singes dans le jungle. Il y avait des Indiens qui avaient un système pour attraper les singes. Il y avait un genre de cage avec des barreaux et ils mettaient quelque chose à l'intérieur de cage qui était vraiment attirant pour les singes. Et le singe arrive et il passe sa main entre les barreaux et il saisit l'appât. Mais là, une fois que l'appât est dans sa main est trop grosse pour sortir des barreaux. Et le singe est trop borné pour lâcher prise. Et il reste là en essayant de faire sortir cela juste pour donner assez de temps pour les Indiens qui se cachaient en arrière des arbres, de sortir avec des bâtons et le taper sur la tête et le tuer. Vraie histoire. Le singe est là. S'il aurait juste lâché prise, combien de chrétiens font la même chose? Ils se laissent offenser. Oh! As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? As-tu vu qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est pas possible. Oh, ils vont prendre l'appât. Et l'ennemi dit, allons-y! Et il sort avec ses bâtons et il nous tape sur la tête. Trop de chrétiens, c'est comme, aïe, 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 ça fait mal, mais lâchez prise d'abord. C'est pas... Et encore mieux, refusez de prendre l'appât. La prochaine fois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui se présente devant toi, qui te donne une occasion d'être offensé, dis, hey, no way. Ça ne m'étonne pas de me faire taper sur la tête par l'ennemi, hein? Développez l'habitude de marcher dans l'amour. Jean-Charles, tu peux venir? Merci, Père Céleste. Moi, je veux être comme Jésus. Et vous? Je veux penser comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Et je veux agir comme Jésus. C'est un processus qui s'appelle le discipula. Mais c'est un processus qui n'est pas automatique. Ça prend une décision de ma part. Il faut que je prenne la décision de grandir en Jésus. Dieu est un gentil homme, il ne va jamais forcer sa volonté sur qui que ce soit. Avez-vous remarqué? Il ne va pas nous forcer de grandir. Si quelqu'un veut rester bébé, on peut rester bébé. Mais si quelqu'un veut grandir, on peut grandir. De la même façon, c'est Dieu qui a dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu ne va même pas forcer les hommes de recevoir le salut. ou d'aller au ciel. Si un homme ou une femme veut, une personne peut carrément refuser d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Un homme, une femme peut entendre la bonne nouvelle. Jésus dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque création. Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Le choix est devant nous. Que c'est triste de voir des fois des personnes qui entendent le message du Christ, qui entendent qu'ils peuvent naître de nouveau. Ils peuvent ouvrir, ils peuvent peser sur le bouton de leur appareil spirituel. Et ils peuvent dire, oui, je crois, oui, je confesse, et laisser entrer la lumière de Dieu dans leur cœur. Les ténèbres qui sont là peuvent être changées, transformées par la lumière de Dieu. Avec tous les yeux fermés ce matin, j'aimerais prier. Vous savez qu'à tous les dimanches matins, sans exception, on donne toujours une occasion à ceux et celles qui ont besoin de prendre cette décision de recevoir Jésus, de recevoir le don gratuit de la vie éternelle, on donne l'occasion. Vous savez que si vous êtes ici ce matin, vous dites, mais moi, j'aimerais être comme Jésus, mais pour dire la vérité, je ne suis pas sûr et certain que Jésus habite à moi. La bonne nouvelle, c'est que le salut éternel est gratuit. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je ne vous invite pas à devenir membre de l'Église Faites la vie comblée. Si c'est une chose que vous voulez faire, tant mieux. Dans le futur, vous pouvez faire cela. Mais ce n'est pas être membre de cette Église ou de n'importe quelle autre religion qui va vous donner la vie éternelle. Nous ne sommes qu'une seule Église parmi beaucoup de bonnes Églises. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir confiance dans le seul vrai Dieu, son Fils Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans. Et si vous êtes là et vous aimeriez que je prie avec vous, vous aimeriez prendre ce pas de la foi et ouvrir votre cœur, laisser la lumière de Dieu briller dans votre cœur, j'aimerais faire une prière avec vous. J'aimerais vous donner l'occasion de prier avec moi-même et de donner votre vie à Jésus. Vous pouvez quitter ce lieu sachant sans aucune doute que vous êtes né de nouveau, que vos péchés sont pardonnés et vous pouvez devenir une nouvelle création dans Jésus. Les choses anciennes vont être passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, juste en levant la main, dirait, pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je n'ai pas encore cette assurance d'être sauvé, mais je veux. Il y a une personne avec la main dans l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Je ne vais pas vous embarrasser, mais vous avez besoin de connaître Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste avec la main dans l'air, qui dirait, prie pour moi ce matin, parce que je veux prier, je veux donner ma vie, je veux ouvrir mon cœur à Jésus. Alléluia. Sinon, on va prier pour cette personne qui a levé la main. Et on va prier. Je pense que la personne qui a levé la main a déjà fait cette prière dans le passé. Et si c'est le cas, je veux t'encourager qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de renaître de nouveau. Mais tu as besoin tout simplement de croire que qu'est-ce que tu as prié la dernière fois a eu son effet. Que Jésus est entré dans ton cœur. Maintenant, c'est le moment de grandir en Jésus. Maintenant, c'est le moment de prendre la parole, de prendre le temps dans la prière, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans l'amour et grandir dans ta connaissance de Jésus. Quand même, je vais prier cette prière, on va tous prier cette prière ensemble, juste pour qu'on puisse quitter ce lieu avec cette assurance. Des fois, c'est bon de nous rappeler de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, juste avant, avec la main dans l'air, qui dirait, j'ai besoin de Jésus? Oui, il y a une autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a deux qui ont levé la main ce matin, quelqu'un d'autre? Alléluia. Merci, Père. On va prier ceci, tout le monde ensemble. Père Céleste, en nom de Jésus, je te remercie pour la vie éternelle qui est un don gratuit. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur. Il est mon Maître et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité et qu'il vit éternellement. Merci que tu habites dans mon cœur et que je vais vivre pour toi le restant de ma vie. ta lumière a brillé dans mon cœur. L'image de Jésus est dans mon esprit. Aide-moi à développer cette image. Aide-moi à faire grandir la semence incorruptible de Jésus-Christ qui habite en moi, pour que le monde entier puisse voir le fruit de ton caractère. Aide-moi à devenir comme Christ, à penser comme Jésus, à parler comme Jésus et à agir comme Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va se lever debout ce matin.